Le bonheur, c'est ici, c'est ici. Ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Le bonheur, c'est ici, c'est ici. Ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici.
Installez-vous confortablement et recevez les sincères et chaleureuses salutations dans le merveilleux, magnifique et tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de ce magnifique rendez-vous parce que j'ose croire qu'une fois de plus, par la grâce du Seigneur, nous allons passer certainement d'agréables moments. Et je le crois de tout mon cœur parce que le thème... Bien, le sous-thème peut être plus précis. Le sous-thème qui nous intéresse, c'est tout simplement qui peut se comparer à Jésus-Christ face à la mort. Et nous sommes comme cela en train de cheminer à la fin de ce sous-thème qui peut se comparer à Jésus-Christ face à la mort. Et la mort, c'est un sujet qui intéresse forcément tout le monde, d'une manière ou de l'autre. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es fidèle, tu es vivant, tu es tout puissant, et c'est à cause de toi que je suis là, c'est à cause de ton nom que je suis là. Louange et gloire à toi pour tous tes bienfaits, pour ta divine protection et tes multiples grâces. Merci pour ces multitudes qui sont à l'écoute, et merci pour ces multitudes qui vont écouter ta parole. Bénis ces multitudes qui vont écouter avec une oreille très très attentive. Bénis ces multitudes qui vont écouter avec foi. Et que toute la gloire te revienne pour tout ce que tu vas faire au travers de ta très sainte et bonne parole. Amen. 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 Installez-vous confortablement, je vous en supplie. Installez-vous confortablement et si c'est possible, ayez un stylo sur quoi noter. Cette émission qui n'appartient pas à une religion, cette émission qui n'est pas là pour... faire la publicité d'une religion, cette émission qui ne vous conduit pas à une organisation religieuse, cette émission qui ne fait pas la publicité des normes, cette émission qui proclame uniquement la parole du Dieu vivant. Oui, c'est la particularité de cette émission. Et comme je le disais tantôt, le sous-thème qui va nous intéresser, c'est qui peut se comparer à Jésus-Christ face à la mort. Et nous sommes comme cela en train de cheminer à la fin de ce sous-thème. Et Jésus-Christ, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Et nous avons vu au travers des versets que nous avons parcourus ensemble que Jésus-Christ ne s'est pas contenté de faire des jolies déclarations. Le Seigneur Jésus-Christ, il a prouvé qu'il est vraiment la résurrection, qu'il est la vie. Il a dit, toute personne qui croit en moi vivra. Et nous avons vu que les pécheurs qui sont venus à Jésus-Christ, ou bien tout pécheur, toute personne pécheresse qui vient à Jésus-Christ reçoit le pardon de ses péchés et reçoit la vie. La vie, la vie en abondance, la vie de Dieu, la vie éternelle. Et nous avons vu également que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous délivre de la seconde mort, c'est-à-dire la conséquence du jugement dernier. Après le jugement dernier, ces personnes qui n'ont pas le Christ comme Seigneur et Sauveur vont être jugées et aller dans le temps de feu que la Bible appelle la seconde mort. Mais Jésus-Christ nous empêche d'aller dans cet endroit terrible. Voilà le pourquoi il est vraiment la résurrection et la vie. Et je vous encourage comme cela vraiment à considérer vraiment ces paroles du Seigneur, à savoir qu'il est la résurrection et la vie. Et nous avons également vu que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, il a eu à affronter de façon palpable, des personnes mortes physiquement. Et nous avons vu le cas d'une jeune fille d'environ 12 ans que le Seigneur Jésus-Christ a ramené à la vie. Nous avons vu un jeune homme qui était fils unique d'une veuve dans Luc 7, à partir du verset 11. Pendant que le cortège se dirigeait tout droit au cimetière pour en finir avec ce jeune homme, ce jeune garçon, le Seigneur Jésus-Christ a croisé ce cortège et il a touché le cercueil. Et le mort s'est relevé et il l'a remis à sa maman qui était veuve. Le deuil était fini. Il n'y avait plus de funérailles ni d'enterrement. Jésus-Christ, il a également l'un des cas les plus spectaculaires, ramené à la vie un certain Lazare qui était décédé et qui sentait même déjà, parce qu'il était déjà enterré depuis plusieurs jours. Et le Christ, lorsqu'il se retrouve devant la tombe de Lazare, il le crie, Lazare sort, et Lazare sort de sa tombe, vivant. Après plusieurs jours dans la tombe, il le sentait même déjà. Et nous voyons là que le Christ, lorsqu'il dit, je suis la résurrection et la vie, il ne se contente pas seulement de faire des jolies paroles. C'est une personne qui a été toujours à la hauteur de ses déclarations, à la hauteur de ses paroles. Et par conséquent, il est digne de confiance. D'où le thème ou le sous-thème. D'ailleurs, le grand thème, c'est qui peut se comparer à Jésus-Christ. Et qui peut se comparer à Jésus-Christ face à la mort n'est qu'un sous-thème. Jésus-Christ, il a certainement été imité, copié, mais il ne sera jamais égalé. Jésus-Christ ne peut être égalé. Il est unique en son genre. Bienvenue à vous. Si vous venez de vous connecter à l'instant, nous sommes en train de nous entretenir sur ce sujet qui peut se comparer à Jésus-Christ face à la mort, cet ennemi redoutable que l'humanité affronte et affrontera encore, encore et encore, qui peut vraiment tenir tête à cet ennemi redoutable que j'ai nommé la mort. Jésus-Christ, lui, oui, il peut le faire. Il peut relever le défi. Et d'ailleurs, sans plus tarder, nous allons nous intéresser une fois de plus à cette portion des Saintes Écritures que nous trouvons dans Jean 2. Et d'ici là, je vais vous communiquer les différents numéros qui vous permettent de réagir par SMS pendant l'émission. Mais après l'émission, vous pouvez réagir en appelant si vous avez des préoccupations, comme beaucoup le font la plupart des temps. Oui, beaucoup appellent plutôt après l'émission et c'est tout à fait normal. Parce que lorsque vous avez des préoccupations qui nécessitent vraiment de prendre du temps pour vous écouter, ça ne peut pas se faire à l'antenne. Donc, pendant l'émission, il n'y a que les messages et les SMS qui sont les bienvenus. Et comme je le disais tantôt, nous allons nous intéresser à ce texte que nous trouvons dans Jean 2. Et nous avons lu cela la dernière fois, où le Christ dit, je vais chercher à partir d'ici et je vais lire rapidement pour nous tous avant de vous communiquer les différents numéros pour toutes vos préoccupations. Et j'ai dit comme cela, salut à ma soeur qui est en ligne, Agnès, oui, qui est de l'autre côté de Yaoundé, Nadège, oui, qui est présentement en direct sur Facebook parce que je tiens à signaler que cette émission est également en direct sur Facebook. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs pages Facebook comme cela à votre disposition. C'est pour vous que ces pages ont été créées. Il y a entre autres Rodrigue Ndjenji et surtout Jésus-Christ est l'ultime solution. Jésus-Christ est l'ultime solution. Et le site internet qui est également à votre disposition, c'est www.pasteurrodrigue.com. Visitez ce site, vous allez y retrouver des choses très, très intéressantes. Nous sommes dans Jean chapitre 2. Je vais lire à partir d'ici pour nous tous. Verset 18 d'abord. Il est écrit, les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Verset 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en trois jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Alléluia. Voilà Jésus-Christ ici qui lance un défi à ses détracteurs, à ses ennemis. Détruisez ce temple, détruisez mon corps, tuez-moi et je vous dis que trois jours après, je reviendrai à la vie. Voilà Jésus-Christ qui lance un défi à la mort au travers de ses ennemis. Et nous allons maintenant voir tous ensemble que Jésus-Christ, il a pu relever, bien entendu, ce défi. Que personne n'a jamais osé lancer sur terre. Lancer un défi à la mort, ce n'est pas tous les jours que nous voyons cela. Mais Jésus, lui, il a osé lancer ce défi. Mais avant de continuer, comme je l'ai promis tout à l'heure, je vous communique rapidement ces différents numéros. Oui, prenez rapidement ces différents numéros si vous en avez besoin. Oui, le 696 36 25 40 ou le 677 61 93 77. Je tiens à signaler que cette émission est avant tout une émission radiophonique, même si certaines personnes peuvent avoir le privilège de l'écouter comme cela en direct sur Facebook ou bien sur mes pages Facebook. C'est avant tout une émission radiophonique. Je ne reçois pas les appels pendant l'émission. Je l'ai souligné tout à l'heure. Donc n'appelez pas, je vous en supplie. Je ne peux pas recevoir vos appels pendant l'émission. C'est après l'émission que vous pouvez appeler si vous le souhaitez. Si vous n'avez pas pu prendre ces numéros, oui, je vous les communique une fois de plus. Le 696 36 25 40 ou le 677 61 93 77. Oui, voilà ce numéro que vous pouvez relever, le 696 36 25 40 ou le 677 61 93 77 sans protocole. Vous êtes en direct avec l'émission, par message bien entendu pendant l'émission et après l'émission, vous pouvez appeler. Et nous allons également nous intéresser à un verset des Saintes Écritures. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 16, le verset 21. Je vais chercher à partir d'ici et je vais lire pour nous tous. Il est écrit ceci, le verset 21 de Matthieu, chapitre 16. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Amen. Maintenant, ici, le Seigneur Jésus-Christ, il n'est plus en face de ses adversaires, de ses détracteurs. Il est avec ses disciples. Et il les fait clairement comprendre que nous allons monter à Jérusalem. Je vais souffrir beaucoup et je serai également mis à mort. Est-ce que Jésus-Christ était en train de tromper ses disciples ou bien il était en train de dire la vérité? Le Seigneur Jésus-Christ, il n'a jamais menti. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nous allons nous intéresser à ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 3. Il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu aussi, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de dire un certain nombre de choses et avec des preuves. D'ailleurs, nous continuons notre lecture. Il a été enseveli, Jésus. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Verset 5. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze. Ensuite, verset 5. Il a paru à plus de 500 frères, à la fois donc, la plupart sont encore vivants. Et donc, quelques-uns sont morts. Et ensuite, il a paru à Jacques, puis à tous les apôtres. Ici, l'apôtre est en train de dire des choses concernant Jésus, concernant sa mort, et surtout concernant sa résurrection. Et il dit que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il a apparu à beaucoup de personnes. Beaucoup l'ont vu vivant, le Christ ressuscité. Et il va nous dire ici que Jésus a apparu une fois à 500 personnes. 500 personnes ont vu Jésus-Christ ressuscité. Et à cette époque-là, où l'apôtre Paul écrivait cette lettre, il dit qu'il y avait des personnes encore vivantes qu'on pouvait interroger pour savoir si c'est vrai, si ces personnes ont réellement vu Jésus-Christ ressuscité. À l'époque où Paul écrivait cette lettre, il dit clairement que La plupart sont encore vivants. Donc, la plupart de ces témoins-là sont encore vivants. Même si quelques-uns sont morts, il y a encore beaucoup de personnes vivantes qui ont vu Jésus-Christ. Et qu'on peut aller vers ces personnes, les interroger. Et il continue en disant, ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Maintenant, verset 8, il va dire, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Alléluia. L'apôtre Paul dit aussi que moi-même qui suis en train de vous parler présentement là, en train de vous écrire, ce que vous êtes en train de lire de ma part, moi aussi, j'ai vu Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. À partir de là, ici, ce n'est plus Jésus-Christ qui parle. Ce n'est plus lui qui parle. Ce sont les témoins qui parlent maintenant à sa place. Ça veut dire que Jésus-Christ, ce n'est pas une histoire inventée par les Blancs. Jésus-Christ, il est réel. Son histoire est vraie. Sa vie est vraie. Sa mort est vraie. Même sa résurrection est une réalité. Je vous communique une fois de plus ces différents numéros, rapidement avant de continuer. Le 696-36-25-40, 696-36-25-40, ou le 677-61-93-77, 677-61-93-77. Nous allons maintenant nous intéresser à un texte des Saintes Écritures dans Actes des Apôtres. Je vous en supplie, écoutez attentivement ce que ce verset nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Je vais lire à partir d'ici pour nous tous. Normalement, c'est un verset qui nous intéresse là-bas, mais je vais lire à partir du verset 22 pour rester un peu dans le contexte. Il est écrit, je lis pour nous tous, à partir du verset 22, verset 24. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est le verset 21. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous invoquez le nom du Seigneur Jésus, vous allez être sauvé. Il va vous donner la vie. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Maintenant, nous descendons verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés, par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme a été livré, a été arrêté. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir. Maintenant, verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, souligné parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Parole du Seigneur, amen. Ici, nous lisons quelque chose d'impressionnant. Il est écrit que Jésus-Christ est ressuscité, est sorti de la tombe, tout simplement parce que ce n'était pas possible que la mort le retienne. Ce n'était pas possible que Jésus-Christ soit retenu par la mort. Mais comment ça? Comment est-ce que Jésus-Christ, qui était comme une personne normale sur terre, comme un être humain, comme les autres, mais que ce n'est pas possible que la mort le retienne. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la mort ne pouvait pas retenir Jésus? Parce que, entre autres, Jésus-Christ, bien qu'il soit né, bien qu'il ait vécu comme un être humain, c'est le seul. C'est le seul qui n'a jamais péché. Ah oui! C'est le seul qui n'a jamais péché. C'est le seul qui incarne la perfection. C'est le seul qui a été la première personne à pratiquer ses lois et les lois de Dieu. Et comme le salaire du péché, c'est la mort, oui, puisque le salaire du péché, c'est la mort. C'est parce que les gens ont péché, c'est parce que Adam et Ève ont péché que la mort est entrée dans le monde. Et les êtres humains meurent parce qu'ils ont hérité la mort de nos ancêtres Adam et Ève. Et Jésus-Christ, puisqu'il n'a jamais péché, lorsqu'il meurt dans le séjour des morts, même la mort s'interroge et lui pose beaucoup de questions, entre autres, mais qu'est-ce que tu fais ici? Jésus, qu'est-ce que tu es venu chercher ici dans le séjour des morts? Ta place n'est pas ici. Tu n'es pas un pécheur pour te retrouver dans le séjour des morts. Jésus ressort tranquillement, sort tranquillement du séjour des morts et retourne là où tu es venu. Retourne au ciel. Ta place est au ciel et non dans le séjour des morts. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Voilà le pourquoi la mort ne pouvait retenir le Christ. La mort ne pouvait pas le retenir parce qu'il n'a jamais péché. C'est pour tes péchés qu'il est mort. C'est pour nos péchés qu'il est mort. Ce n'est pas parce qu'il a péché. Voilà le pourquoi la mort ne pouvait le retenir. Et aujourd'hui, lorsque les gens veulent comparer Jésus-Christ à les petits prophètes, à les petites religions, Jésus-Christ, il est incomparable. Vous ne pouvez le comparer ni à qui, ni à quoi que ce soit. Ne serait-ce que déjà à ce niveau, il est le seul que la mort a refusé en son sein. La Bible nous dit que le séjour des morts ne se rassasie jamais. Le séjour des morts ne fait qu'ouvrir sa gueule pour avaler les êtres humains. Mais lorsque Jésus est arrivé, il a dit, « Toi, je ne peux pas t'avaler. » Le séjour des morts a vomi Jésus, a craché Jésus. Et Jésus est revenu vivant. Alléluia! C'est vraiment merveilleux. Qui peut se comparer à Jésus-Christ face à la mort? Voilà une personne que la mort n'a pas pu retenir. Et c'est vraiment merveilleux. Donc cet homme, il est digne de confiance. Il est la perfection. Il est parfait dans toutes ses voies. Vous pouvez lui faire confiance. Jésus n'a jamais échoué. Et il n'échouera jamais. Si vous croyez en lui, vous aurez la vie. La vraie vie, la vie en abondance, la vie éternelle. Et cette question qui est devant moi, par message bien sûr, c'est un message. S'il vous plaît, y a-t-il deux morts? Certainement, vous n'avez pas écouté les émissions précédentes. Oui, il y a plusieurs sortes de morts, pas seulement deux, au moins trois. Il y a plusieurs sortes de morts. Il y a d'abord la mort spirituelle, qui est le fait d'être séparé de Dieu à cause du péché. Donc le péché, ce n'est pas les êtres humains de Dieu. Et lorsque vous vivez, vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu, comme un père doit être en communion avec son enfant. C'est la mort spirituelle. Et lorsque vous mourrez physiquement, c'est la mort physique que beaucoup connaissent. Et après la mort physique, il y a la seconde mort pour ces personnes qui n'ont pas accepté Dieu dans leur vie, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce que la Bible appelle la seconde mort. Ou bien les temps de feu. Donc il y a plusieurs sortes de morts. La mort spirituelle, la mort physique et la seconde mort. C'était pour répondre rapidement à cette question qui m'a été envoyée par message. Si vous venez de vous connecter, bienvenue à vous. Vous êtes en train d'écouter une émission qui parle de Dieu, bien entendu, mais sans faire la publicité d'une religion, sans appartenir à une religion. Vous êtes en train d'écouter une émission qui ne vous conduit pas à une religion, qui ne vous encourage pas à vous abonner à une religion, une émission qui se limite tout simplement, oui, à nous entretenir sur des sujets intéressants en ouvrant uniquement les Saintes Écritures, la Bible. Et c'est tout. C'est vrai, beaucoup de choses peuvent être dites et parfois ça peut déranger. Mais si c'est la vérité biblique, c'est ça qui est le plus important. La vérité biblique divise, dérange, mais surtout elle affranchit, elle sauve, elle délivre, elle restaure, elle guérit. Et Gloire à notre Dieu pour cette émission. Oui, gloire à Dieu pour cette émission. Et nous allons également nous intéresser à ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 2. Je cherche à partir d'ici et je vais lire pour nous tous. J'ai dit Hébreux chapitre 2. À partir du verset 14 au verset 15, il est écrit: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance ou l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Amen. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il est venu sur terre comme un être humain, fait de chair et de sang. Et surtout, pour affronter aussi la mort. Puisqu'il était fait de chair et de sang, il a affronté la mort. Comme nous venons de le voir, il a été plus fort que la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Il est tout simplement ressorti, victorieux, ayant vaincu la mort. C'est ce que nous lisons, et parce que Jésus-Christ, il a vaincu la mort, il peut délivrer tous les êtres vivants de la crainte de la mort. Alléluia! Donc Jésus nous délivre de la crainte de la mort. Tout simplement parce que en Jésus, vous avez la vie. Vous avez la vie. Vous avez la vie de Dieu. Pendant que vous êtes sur cette terre, vous avez déjà la vie en abondance, la vie de Dieu. Et votre vie est entre les mains de votre Créateur. Il ne revient plus aux ennemis, au diable, aux sorciers de décider de votre sort en ce qui concerne la mort. Désormais, c'est Dieu qui va décider quand est-ce que vous allez quitter la terre. Et quand bien même vous allez quitter la terre, vous allez tout simplement quitter la vie pour aller vivre, c'est-à-dire la vie après la vie. Alléluia! Comme nous l'avons vu la dernière fois, les vrais enfants de Dieu dorment et se réveillent tout simplement dans le royaume de leur Père céleste. Les vrais enfants de Dieu s'endorment tout simplement parce que pour eux, c'est tout simplement la vie après la vie qui les attend. Pendant que c'est le jugement qui attend certaines personnes, c'est la vie après la vie qui attend ces personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et par conséquent, lorsque quelqu'un quitte la terre en ayant cette conviction, cette espérance, vous ne pouvez plus vivre dans la crainte. Vous n'avez plus peur de la mort. Alléluia, alléluia. Un jour, l'apôtre Paul pouvait dire: je suis pressé même de quitter la terre, parce que je sais que si je quitte la terre, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Je veux être avec mon Créateur, mon Sauveur pour toujours. Si je reste encore sur terre, c'est tout simplement parce qu'il me faut travailler pour le Seigneur. Il me faut prêcher l'évangile pour que beaucoup puissent être sauvés. Voilà le pourquoi je suis encore sur terre. Mais s'il fallait choisir, je suis plutôt pressé de partir. Alléluia! Nous voyons là quelqu'un qui n'avait pas peur de la mort, quelqu'un qui dit qu'il est pressé de mourir. Depuis quand est-ce que nous voyons quelqu'un dire de telles choses? C'est parce qu'il avait cette espérance, cette assurance. Il n'avait plus peur de la mort. Il avait été déjà délivré de la peur de la mort, de la crainte de la mort. Alléluia. Et ce message, pasteur, si je respecte les 10 commandements de Dieu, dois-je avoir la vie éternelle? Non. Vous n'aurez pas la vie éternelle en respectant les 10 commandements. Pour la simple raison que la Bible nous dit que les lois de Dieu, personne ne peut les respecter. Ah oui. S'il fallait respecter les commandements, et particulièrement les 10 commandements pour avoir la vie, Jésus ne serait pas venu. Il serait venu faire quoi donc? Puisque les 10 commandements existaient déjà. C'est parce que notre justice aux yeux de Dieu, même au point le plus élevé, la Bible dit que Dieu considère cela comme un vêtement souillé. Voilà le pourquoi la vie éternelle étant tellement chère, personne ne pouvant ni l'acheter par l'or ni l'argent, ni même en essayant de pratiquer les 10 commandements, le Seigneur a décidé de l'offrir tout simplement gratuitement. Et on obtient la vie éternelle gratuitement en acceptant tout simplement Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. D'ailleurs, c'est ce que nous lisons dans Romains chapitre 6, le verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Donc la vie éternelle, c'est un don gratuit qui ne se mérite pas. La seule personne qui mérite, c'est Jésus-Christ. Lorsque les êtres humains vont se retrouver devant le Seigneur, devant Dieu Tout-Puissant, beaucoup de gens vont recevoir des couronnes et des récompenses pour avoir fait beaucoup de choses sur terre pour la gloire de Dieu en tant que chrétien. Ça, c'est certain. Mais lorsqu'on va ouvrir la page du salut, la page de la vie éternelle, le seul nom qu'on va entendre à propos du salut, que la personne qui a tout accompli, qui mérite la gloire, qui mérite les acclamations, c'est Jésus-Christ, celui qui est l'auteur de notre salut. Alléluia. Donc le salut biblique ne s'obtient que par la foi en Jésus-Christ. Vous vous reconnaissez pécheur, pécheresse, vous confessez les péchés connus au Seigneur, vous lui demandez sincèrement pardon et vous lui dites que vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur pour avoir la vie et pour avoir la vie éternelle. Si vous êtes vrai, si vous êtes sincère dans cette démarche, le Seigneur ne vous demande pas autre chose. Il vous pardonne, il vous purifie parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix par son sang. Et il vous sauve. Il vous donne la vie éternelle. Alléluia. C'est pour cette raison que Jésus-Christ, avant de décéder sur la croix, va dire « Tout est accompli. » Alléluia. Tout est accompli. Donc Jésus-Christ a tout accompli. Il a déjà payé la dette. C'est lui seul qui a pu pratiquer la loi de Dieu sur terre sans faillir, 100%. Personne ne peut se tenir devant Dieu et dire « Seigneur, j'ai pratiqué ta loi. » Non et non, personne. Parce que nous péchons en pensée, en parole et par action. C'est seulement dans les pensées. On fait beaucoup de mauvaises choses en pensée. Et vous croyez qu'avec ça, vous pouvez mériter la vie éternelle? Mais non. Voilà le pourquoi la vie éternelle s'obtient tout simplement, gratuitement, tout simplement par la foi en Jésus-Christ. Et voilà le pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, sur toute la surface de la terre, jour après jour, est vénéré, célébré, adoré, acclamé. Des cantiques inspirés sont chantés en son honneur. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce que personne n'a pu faire et ne peut faire. C'est lui seul qui nous donne la possibilité d'avoir la vie éternelle. Parce que c'est lui qui a payé le prix par sa vie et par son sang. Il nous faut juste l'accepter comme Seigneur et Sauveur, selon ce qui est dit dans Jean 1, verset 12. Jésus-Christ est venu chez les siens, c'est-à-dire en Israël, chez les Juifs, ils l'ont rejeté. Mais en quelque lieu que ce soit, ceux qui l'acceptent, qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et gloire à notre Dieu. Et il y a ce message, je ne sais pas vraiment ce que l'auteur de ce message veut dire. Y a-t-il deux vies dans ce monde? Idéaliste, magicien, je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire. Reformulez votre message en étant plus précis, je vous en supplie. Et cet autre message, c'est vrai qu'il y a des abréviations. Comment? Vraiment, je n'arrive pas à bien déchiffrer votre message. S'il vous plaît, essayez de réécrire ce message en n'évitant les abréviations, puisque nous sommes en direct. Et ce n'est pas évident de laisser un temps libre juste pour déchiffrer les messages. Si vous venez de vous connecter à l'instant, bienvenue à vous. Vous êtes en train d'écouter une émission qui parle de Dieu, sans faire la publicité de la religion, sans appartenir à une religion, mais qui parle uniquement de Dieu et de sa parole. Et le livre qui nous inspire, c'est tout simplement la Bible. Et c'est tout. Et nous sommes en train de nous intéresser à un sous-thème qui peut se comparer à Jésus-Christ face à la mort. C'est le sous-thème qui nous intéresse. Il y a ce message qui dit « Merci, pourquoi Dieu n'empêche pas les mauvais esprits d'atteindre les hommes ?» C'est un message. Les mauvais esprits ne peuvent atteindre que ces personnes qui ne veulent pas que le Christ entre dans leur vie. Il est écrit que la personne qui a le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, cette personne qui est dans ta vie, Jésus-Christ est plus fort. Oui, Jésus-Christ est plus fort. Cette personne qu'on appelle Jésus-Christ, lorsqu'il est dans une vie, cette personne est la plus forte que tout ce qu'il y a dans le monde. Donc, pour que les sorciers et les mauvais esprits puissent atteindre un enfant du Dieu vivant, ayant l'esprit du Dieu vivant, il faudrait que cet esprit puisse d'abord atteindre Jésus. Mais comme on ne peut pas ni atteindre Jésus, ni tuer Jésus, c'est une bataille perdue d'avance. Donc, si vous voulez être à l'abri des mauvais esprits, des attaques des sorciers, acceptez tout simplement Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Et vous allez voir qu'en toute chose, vous allez être des vainqueurs et des plus que vainqueurs. Et c'est ainsi qu'on ne peut pas prendre un vrai enfant du Dieu vivant dans la sorcellerie, dans le con. Parce que pour pouvoir vous manger, comme on le dit vulgairement au quartier, il faut d'abord manger Jésus. Et Jésus-Christ n'est pas mangeable. Jésus-Christ n'est pas un os mangeable. Que la personne qui peut avoir des oreilles pour entendre, entende. Il y a vraiment des messages qui affluent. Et je veux voir si je peux parvenir à les lire. Est-ce que Jésus-Christ viendra vraiment encore sur terre pour pardonner les péchés? Vous n'avez pas besoin que Jésus-Christ revienne pour pouvoir être pardonné. Si le Christ revient, ce n'est pas pour pardonner les péchés. C'est pour établir son règne. Il reviendra plutôt comme juge et non plus comme sauveur. Donc si Jésus-Christ n'est pas votre sauveur maintenant, vous allez certainement l'affronter comme votre juge. Jésus-Christ ne reviendra plus pour pardonner. C'est maintenant qu'il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur pour pouvoir être pardonné. Et sans plus tarder, nous allons nous intéresser peut-être au dernier verset de ce jour avant de nous séparer, puisque d'un moment à l'autre, nous allons nous séparer. Ces deux derniers versets qui vont nous intéresser dans le dernier livre de la Bible. Dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 1er. Nous allons nous intéresser à deux versets dans ce chapitre 1er. Il est écrit, Jean l'apôtre, qui dit ceci, « Quand je le vis, je tomba à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite, disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Verset 18, « Et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Alléluia, amen. Le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était sur terre, il a dit à qui voulait l'entendre, « Je suis la résurrection et la vie. La personne qui croit en moi aura la vie. » Après qu'il ait lancé ce défi à la mort, « Détruisez mon corps, tuez-moi et je vais revenir à la vie. » Le voici maintenant, ressuscité, qui s'adresse à l'un de ses apôtres, l'apôtre Jean. Il lui dit, mon cher apôtre, j'étais mort, maintenant c'est du passé. Alléluia. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant et je suis vivant pour des siècles et des siècles. Et je tiens les clés. Alléluia. Les clés sont entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, autrement dit, si vous avez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous n'avez plus à avoir peur, ni des démons, ni des mauvais esprits, ni des sorciers, encore moins même de la mort. Parce que c'est Jésus-Christ qui a les clés entre ses mains. Alléluia. Donc, c'est lui qui décide. Dans la vie de cette personne qui a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce ne sont pas les méchants qui vont décider. Ce ne sont pas les sorciers qui vont décider. Ce ne sont pas les démons qui vont décider. Non, le dernier mot, c'est Jésus-Christ qui l'a. Alléluia, c'est vraiment merveilleux. Donc, lorsque vous avez vraiment Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous pouvez dormir en paix. Vous pouvez marcher en paix. Quoi qu'il arrive, c'est Jésus-Christ qui a le dernier mot. Ah oui, peu importe les problèmes que vous avez, les malédictions qui pèsent sur votre existence. Lorsque vous avez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est lui qui aura le dernier mot. Lorsque Jésus-Christ va se lever pour dire, maintenant ça suffit. Maintenant cette maladie va s'en aller, cette maladie s'en ira. Maintenant ces malédictions-là vont quitter ta vie, ces malédictions-là vont quitter ta vie. Parce que c'est lui qui décide. Alléluia! C'est vraiment merveilleux. Mais malheureusement, nous voyons beaucoup de gens qui sont torturés par les méchants, torturés par les sorciers, torturés par les démons. Mais ce n'est pas normal. Beaucoup sont même précipités carrément dans la tombe. Mais là, ce n'est pas normal. Tout simplement parce que ces personnes n'avaient pas mis leur vie en sécurité entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce n'est que entre les mains du Seigneur Jésus-Christ que vous êtes en sécurité et pour toujours. Vous avez la sécurité éternelle. Non seulement vous êtes protégé sur cette terre, même les temps de feu qu'on appelle vulgairement enfer n'est plus votre partage. C'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et peut-être ce dernier message que je veux lire avant que nous nous séparions. Est-ce que Dieu est d'accord qu'on enlève les crânes? Vous enlevez les crânes pour quoi faire? Vous enlevez les crânes pour quoi faire? Beaucoup vont sur les crânes, verser de l'huile, faire des sacrifices et que sais-je encore. Parce que ces personnes sont à la recherche d'une certaine bénédiction, d'une certaine protection, d'une certaine sécurité. Beaucoup veulent avoir une bonne vie sur terre. En réalité, pour moi, c'est la pire des choses. Comment pouvez-vous chercher la vie chez les morts? Comment pouvez-vous chercher la vie chez les morts? Allez plutôt vers cette personne qui est vivante. Si vous voulez la vie, une bonne vie sur terre et surtout la vie éternelle après votre passage sur terre. Donc cessez d'aller chercher la vie chez les morts. Laissez-les se reposer en attendant la résurrection et le jugement. Ces crânes, là où ils sont, laissez-les tranquilles. Ils attendent la résurrection et le jugement. Ils sont déjà morts. Ne cherchez pas la vie chez les morts. Tournez-vous vers la personne qui est vivante pour toujours, Jésus-Christ. Nous venons de le lire. Il a dit, j'étais mort, mais je suis revenu à la vie, je suis vivant pour des siècles et des siècles. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc le Seigneur vous accorde sa divine grâce, que vous puissiez vous tourner vers lui avec foi, et tout ce que Jésus-Christ a dit et a promis dans sa parole sera votre partage pendant que vous êtes sur cette terre et même après votre passage sur cette terre. Et qui peut vous proposer mieux que Jésus-Christ? Personne, bien entendu. Nous sommes comme cela en train de cheminer à la fin de notre émission de ce jour. Et nous allons prier. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci parce que tu es vivant et tu es tout puissant. Merci pour ta parole, elle est la vérité. Et tu accompagnes ta parole par des prodiges et des miracles. En quelque lieu que ce soit, toute personne qui a écouté, Seigneur, ta parole, avec foi, Seigneur, je prie que tu bénisses ta parole dans la vie de cette personne et que cette personne puisse expérimenter la vie que tu apportes, la délivrance que tu apportes, la joie, la paix en illimité que tu apportes et surtout la divine protection, le salut, la vie éternelle que toi seul tu offres à quiconque se tourne vers toi. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu as vaincu la mort. Et tu es la seule personne qui a vaincu la mort. Et si tu as vaincu la mort, tu peux également nous accorder la victoire dans nos problèmes du quotidien. Peu importe ce que nous avons comme soucis, préoccupations, Seigneur, tu es capable de faire quelque chose. Et je prie pour cette personne qui est à l'écoute, qui, Seigneur, a un besoin précis, pressant, qui a besoin, Seigneur, d'une grâce particulière dans sa vie, et tu es la seule personne capable de faire cela dans la vie de cette personne. Fais-le pour la gloire de ton Seigneur, à cause de ton amour, tout simplement, et que toute la gloire te revienne. Seigneur, je te confie les orphelins, les veuves, les prisonniers, les sans-abri, et les laissés pour compte. Et je te confie également notre nation. Oh Dieu, puisses-tu toucher le cœur des multitudes dans cette nation, afin que beaucoup puissent abandonner la corruption, le mal sous toutes ses formes, et se tourner vers toi pour avoir la vie, pour avoir la vraie vie, la vie en abondance. Nous voulons avoir une meilleure vie dans cette nation, mais comment pouvons-nous avoir cette vie loin de toi? Seigneur, touche vraiment le cœur, et attire le cœur à toi, et donne-leur, Seigneur, de comprendre que ce n'est que vers toi qu'on peut avoir la vraie vie, et surtout la vie éternelle. Merci Seigneur. Merci parce que je crois que tu vas certainement agir même au-delà de nos attentes. Et c'est à toi que va revenir toute la gloire, maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Amen.
Contact ou pour tout conseil, n'hésitez pas d'appeler à ces deux numéros. D'abord le 677 61 93 77 et aussi le 696 36 25 40. Je reprends. 677 61 93 77 ou aussi le 696 36, 25, 40. Vous pouvez précéder des 237 ces numéros si vous appelez hors du Cameroun. Connectez-vous aussi sur le site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot, pasteurrodrigue.com. Collectez-vous sur ce site et téléchargez tout ce qui vous intéresse gratuitement. Que la bonne main du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. À bientôt. Et que toute la gloire, les honneurs, les acclamations reviennent uniquement au Seigneur Jésus-Christ, maintenant et pour l'éternité. Alléluia. Amen.